T'es un bon manager, toi ?
Non. Moi, déjà, la première pensée positive, j'ai mauvais. Donc, dès le départ de ta liste, je suis hors course.
C'est vrai que ceux qui écoutent ce podcast savent que pensée positive,
non, fondamentalement,
c'est pas
non, je suis pas un bon. Je pense que je suis un bon prof, mais vraiment, manager, je suis mal.
Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
Salut à tous et bienvenue dans le 31e épisode du podcast des éclaireurs avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice.
Salut.
Avec Damien Dolny.
Salut.
Salut Damien. On parle aujourd'hui de management. C'est un sujet qu'on ne traite pas régulièrement, c'est le moins qu'on puisse dire dans ce podcast. Mais je voulais qu'on parle et on voulait ensemble parler du fait qu'il y a peut-être un décalage entre les grands discours aujourd'hui sur le management, ce que prônent les entreprises de RH, et puis la réalité de ce qu'est le management dans les entreprises. On a pris pour ça finalement un article qu'on a trouvé sur parlonsrh.com. Quelles sont les 13 qualités d'un bon manager qui résume à peu près la tendance générale de ce qu'on dit être le bon management aujourd'hui, et on verra à quel point c'est peut-être décalé. C'est toi qui as la liste, Damien.
Alors, je vais vous donner la liste. Effectivement, il y a 13 qualités attendues d'un bon manager. La première, c'est de penser positivement. La seconde, d'être honnête. La troisième, de déléguer. La quatrième, de communiquer. La cinquième, d'être inspirant. La sixième, coordonner son équipe. La septième, encourager l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Huitième, être reconnaissant. La neuvième, encourager le développement personnel. La dixième, encourager ses collaborateurs. La onzième, être un mentor. La douzième, être un manager juste. Et pour finir, la treizième, encourager les bonnes habitudes.
Et là, à chaque fois qu'il était dans la liste comme ça, avec les numéros, je suis sûr que vous étiez en train de vous dire, bon, alors mon manager à moi,
voilà.
Ou moi en tant que manager,
on coche les cases ou pas ?
Non, on coche les cases négatives de l'histoire. Bon, ça veut dire globalement être empathique, être à l'écoute des autres, être les accompagner, être responsable aussi, assumer ses responsabilités. Est-ce que tout ça, c'est du discours bullshit, bisounours, ou est-ce que ça marche ? C'est un peu la vraie question. Moi, j'ai un peu la réponse, mais je voudrais votre avis d'abord là-dessus.
T'es un bon manager, toi ?
Non. Moi, déjà, la première pensée positive, j'ai mauvais. Donc, dès le départ de ta liste, je suis hors course.
C'est vrai que ceux qui écoutent ce podcast savent que pensée positive,
non, fondamentalement, c'est pas exact. Non, je suis pas bon. Je pense que je suis un bon prof, mais vraiment, manager, je suis une brêle. On peut pas tout faire dans la vie. Hein. Après, cette liste ressemble à une espèce d'inventaire à la Prévert issu d'un bouquin écrit de façon à gagner en visibilité.
On dirait un article LinkedIn.
Les 13 qualités du manager, le 11e
va vous surprendre.
Et donc forcément, ça suscite une certaine méfiance.
Vous êtes cynique, les mecs.
Bah oui, j'ai faudé le premier. Pensée positive, non. Donc forcément, je vais être hyper cynique. Non, ça ressemble à un article Combini ou LinkedIn au mieux. Est-ce que tu vas pouvoir recruter des êtres humains qui cumulent ces 13 qualités pour manager tes troupes ? Non. Est-ce que ta culture d'entreprise est compatible avec l'épanouissement de ce type de manager ? Parce qu'il faut aussi qu'il s'épanouisse, le manager. Hein, il n'est pas là que pour épanouir les joueurs. Bah, ça dépend des entreprises, mais je suis pas sûr que ce soit.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut trouver des êtres humains qui soient compatibles avec ça ? Oui, il faut juste aller les chercher dans d'autres registres de recrutement.
Non, mon point, c'est des êtres humains qui soient comme ça et qui puissent s'épanouir dans une culture d'entreprise. Combien d'entreprises tu vas trouver qui soient capables de s'épanouir dans ça ?
Je pense que tu appuies sur le bon endroit, qui est que sur le papier, c'est génial tout ça. J'en connais quelques-uns qui globalement cochent la plupart des cases, mais très clairement, tu as d'abord la question pour le manager qui très souvent a le cul entre deux chaises, hein, ou entre le marteau et l'enclume, le manager qui lui doit déjà arriver à s'épanouir là-dedans. Donc c'est une question de culture d'entreprise. Après, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce que c'est en train de sortir ce truc-là, et au-delà de l'aspect un peu caricatural, bisounours qu'on pourrait, on va dire, qualifier ces différents éléments. Moi, ce qui me surprend, me saute aux yeux, c'est de me dire que finalement, il y a beaucoup d'évidences. Et s'il y a des évidences, ça veut dire que manifestement, ça pourrait être comme ça, mais ça ne l'est pas. Donc la question, c'est pourquoi ça ne l'est pas aujourd'hui ?
Il y a des études sur le type de management. Alors d'abord, il y a le management des pays du nord de l'Europe qui est comme ça, assez structurellement depuis maintenant 40 ans, en tout cas qui va vers ça, qui tend vers ça, et avec des taux de productivité qui sont importants et des taux de bonheur, entre guillemets, dans l'entreprise qui sont qualifiés, étudiés, quantifiés depuis 40 ans et qui sont plus importants qu'en tout cas ce qu'on voit en France. Il y a la demande des millennials qui sont assez ingérables aux yeux de tous les managers. Tout le monde vous dit, les millennials, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Ben, quand on leur pose la question, ils demandent ça. Globalement, ils demandent ce genre de truc. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire parce qu'ils le demandent, simplement peut-être qu'il y a quelque chose. Et puis, il y a aussi des études qui montrent que lorsqu'on est dans un management empathique, on va le résumer sous ce mot-là, la productivité augmente de façon très très nette. Donc il y a quand même des critères favorables autour de ça, même s'il y a un petit côté bisounours dans tout ça, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place quelque chose qui finalement serait une forme de réponse à la fois la demande des millennials et de l'autre côté la demande de productivité des associés, des actionnaires?
Alors nous, moi, je répète, moi j'ai connu des managers, j'en ai au moins deux en tête, qui sincèrement cochaient quasiment toutes les cases. La différence, c'est que là, pour la plupart, je me rappelle, ils sont partis de leur poste au bout d'un moment. Parce que justement, l'environnement qui était autour
d'eux... Rappelle-nous, dans quelle entreprise c'est pas l'entreprise où le management consiste à balancer les gens par les fenêtres ou les pousser un peu à se balancer?
Tu veux dire une entreprise avec une couleur en tout cas?
Voilà.
Non, c'était France Télécom. Il ne faut pas confondre avec Orange. Et deuxième élément, non. Très clairement, on est d'accord, mais justement, c'est intéressant cette histoire-là. Le jugement qui a eu lieu, merci de le... a prouvé qu'en fait, effectivement, c'était une certaine sorte de management qui était poussé par le plus haut pour essayer de dégager, et qu'il y a certains managers qui essayaient de résister, mais qui se sont fait balayer aussi par le système.
Comme de vulgaires employés.
Oui, très clairement. Donc, le fait est que c'est tragique, mais le fait est que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir, je vais mettre des gros guillemets à gentillesse, autrement dit, pas dans le sens bisounours, mais au sens, on va dire, empathique.
Bienveillance.
Et bienveillance,
en général,
et empathique.
On dit bienveillance.
Est-ce qu'on peut être empathique et bienveillant dans une entreprise, y compris est-ce que les managers peuvent l'être? Ça, c'est peut-être une question qu'on peut se poser en creux.
Je vais faire un parallèle avec la dernière grande bienveillance qu'on nous a vendue, hein, qui était La République En Marche, qui a commencé vraiment dans un esprit positive attitude, bienveillance, tout ça. Et à la première difficulté, en l'occurrence les Gilets jaunes, toute cette bienveillance s'est transformée en haine. Hein, et oui. Une haine, mais impressionnante, qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux. Hein. Et ça a switché en l'espace de quelques semaines.
Il y a quelque chose d'intéressant dans La République En Marche, c'est qu'en fait, il y avait, je pense, à l'intérieur de ce mouvement-là, des gens qui étaient d'une réelle bienveillance.
Totalement, totalement.
Et on s'est aperçu qu'il y a eu une chasse aux sorcières très très rapidement à l'intérieur même du petit groupe constitué, et que les plus... teigneux d'entre eux, entre guillemets, les plus résistants ont pris le pouvoir en fait, et qu'il y en a beaucoup qui sont partis.
Et puis il y a aussi plein de gens qui étaient bienveillants, parce que c'est facile d'être bienveillant quand on est des winners, mais une fois qu'on est confronté à des difficultés et qu'en face on a vraiment un constat d'échec absolu sur l'unité qu'on était censé apporter au pays, et ben cette bienveillance se transforme vraiment dans une haine que même les fameux fachos de la fachosphère n'arrivent pas à égaler.
Alors revenons à l'entreprise, ça voudrait dire que si on met quelques touches comme ça diffuses de bienveillance chez certains managers, de toute façon, si ça n'est pas globalement la politique de l'entreprise, ça ne peut pas fonctionner, ils se font manger par le système en fait.
Oui, ils se font eux-mêmes manger par le système, voilà. Ou ils peuvent se faire dégager, voire même sauter par la fenêtre éventuellement. Ça c'est un premier élément. Après, l'autre élément, il est que, de toutes les manières, tu le disais par rapport aux millennials, qui pose un vrai problème pour les entreprises, parce qu'en fait les entreprises n'arrivent plus à se renouveler par rapport à des recycles, enfin dire un cycle de vie de renouvellement.
C'est catastrophique. Pour enseigner dans une grande école, personne ne veut aller travailler dans ces gros mastodontes qui auparavant drainaient tous nos étudiants.
Et donc justement, ça peut être un facteur de changement. Ça peut être un facteur de changement parce que les entreprises se rendent compte que effectivement, c'est plus aussi facile que ça. Et il peut y avoir un paradoxe entre la dureté du business, du marché qui s'est mondialisé, qui est très complexe, et la nécessité, pour gagner en productivité peut-être, de faire en sorte d'aborder des gens qui aujourd'hui te disent « Moi, je ne veux pas être comme mes parents et je ne veux pas avoir un bullshit job où en gros, je me demande même ce que je fais aujourd'hui dans mon boulot et j'en ai rien à foutre. »
Je ne veux pas travailler pour une entreprise qui pollue, je ne veux pas travailler pour une entreprise qui n'a pas de valeur. Je veux pas... Bah, à force d'être aussi exigeant que ça, les millennials, vous allez vous retrouver au chômage. Hein.
Oui, enfin la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend la défense et qu'on prend les grandes entreprises qui ont leur siège social à la défense, ce qu'on leur propose globalement, c'est « Allez, vous avez le droit de ne pas mettre de cravate le lundi, le mercredi et le vendredi, et c'est à peu près l'effort qu'on peut faire sur la coulitude de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a encore un chemin qui est très très important à faire. Après, les millennials en question, ils sont là aussi pour ceux qui ont fait des études pour créer des boîtes et changer l'état d'esprit du truc. Est-ce qu'ils le changent? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que ces millennials-là, quand ils créent des entreprises, des startups notamment, sont des managers bienveillants? La réponse est de toute évidence non. Vraiment. Parce que pour en avoir vu des milliers, et il y a beaucoup de gens qui ont fait le tour, c'est pas du tout ce qui se passe en fait. Non. On est dans des trucs très 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 verticaux qui sont à peu près aussi...
Il y a un baby-foot.
Oui, c'est ça. C'est le baby-foot, mais le patron est dans sa tour d'ivoire à peu près comme leurs parents et leurs grands-parents, hein, vraiment. Alors, il y a cette différenciation culturelle là aussi entre le discours et la réalité là.
Oui, maintenant, si tu veux, il y a un dans les 13 points qu'on a listés, il y en a un que je trouve intéressant qui est le... Enfin, qui à mon avis peut se révéler positif aujourd'hui ou réaliste, qui est l'encouragement de la vie perso et pro, l'équilibre entre la vie perso et le pro, qui est une demande très forte, je pense, de tout le monde aujourd'hui. Et on le voit avec l'encouragement de la part des entreprises à faire du télétravail, notamment. Sachant que le sujet du télétravail, il a 20 ans, hein. Il a plus de 20 ans.
Attends, il faut que tu m'expliques comment le fait de faire du télétravail va me permettre de développer ma vie perso, sachant que c'est quand même l'arrivée du travail dans un environnement physique qui relève du personnel.
Non, parce qu'en fait, le fait est de dire que si ça t'évite de te taper 45 minutes aller, 45 minutes de retour pour...
Ça, oui, ça j'entends. C'est un confort de vie. Il n'y a aucun doute. Que ça... Par contre, pour ce qui est d'encourager la vie perso, la vie pro, je ne suis pas sûr que ce soit...
Non, l'idée, c'est de permettre d'avoir une certaine flexibilité pour faire en sorte que tu puisses avoir un équilibre de vie pro-perso qui est peut-être...
Sortir du cadre du 9h-18h.
Ça ressemble aussi à une flexibilité pour faire en sorte de, finalement... rogner sur ta vie personnelle et flouter les limites.
Le truc derrière, c'est pas ça. C'est que oui, le truc, c'est pas forcément rogner sur le personnel. C'est en fait, c'est rogner plutôt sur les mètres carrés et faire en sorte que tu aies une logique de flexibilité beaucoup plus forte. Donc en fait, la question de fond, c'est ça. C'est est-ce qu'il faut des éléments, des facteurs externes qui vont de j'arrive plus à recruter des gens assez motivés ou j'ai besoin de réduire les mètres carrés pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de bienveillant qui émerge. Ça pourrait être amusant comme modèle.
Oui, c'est sûr qu'il faut casser les cadres un tout petit peu. C'est-à-dire que si on dit aux gens, vous allez dans un bureau, dans un open space, et on a beau mettre un baby-foot et des trucs chinois à bouffer à midi gratos, ça ne changera pas fondamentalement le problème. La réalité, c'est que les gens veulent aujourd'hui une forme de flexibilité, de fait. Et que la différence entre vie publique et vie professionnelle, la vie professionnelle et vie privée, pardon, est en train de devenir plus floue. C'est vrai, parce que tout le monde est connecté en permanence, et quand on est connecté en permanence, ben, on reçoit aussi bien les Facebook de ses copains que les mails du boulot. Et qu'on s'est habitué tous à traiter indifféremment les deux à 11h le soir, hein, avant de se coucher. Voilà. Et donc, aujourd'hui, bah, c'est la demande de gens qui sont nativement digitaux, c'est de pouvoir gérer eux-mêmes cette différence-là.
Il faut être honnête, on est aussi habitué à traiter du mail perso à 14h30 alors qu'on est dans un bureau en train de bosser.
Oui.
Donc, il y a vraiment eu un mélange
total.
Il y a
un floutage entre les deux.
Il y a un floutage total de ça.
Absolument.
C'est pour ça que le télétravail, certes, ça t'évite les transports, mais ça contribue à cet énorme floutage qui est déjà très 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 avancé. Hein. Donc on se retrouve très rapidement effectivement à être totalement paumé entre ce qui relève du perso, ce qui relève du pro, ce qui relève peut-être d'un entre deux, ce qui relève des horaires, qui va les appliquer. Évidemment, beaucoup vont être confrontés à une hiérarchie qui va leur demander de travailler en dehors d'horaires, on va dire, pas décents, hein, mais traditionnels, de travail traditionnel. Et ça contribue quand même à un énorme, énorme flou.
Donc, si on résume, le premier truc à faire, au lieu d'embaucher à l'intérieur des 12 cadres de l'entreprise, deux qui soient bienveillants et qui vont se faire manger, ce serait peut-être de changer les cadres de fonctionnement traditionnels en arrêtant d'imposer du 9h-18h à tout le monde dans l'open space, en libérant un petit peu la flexibilité pour chacun, le télétravail. Je pose une question en même temps que je dis ça, et en étant beaucoup plus souple là-dessus, en disant, voilà, ce qui est important, c'est que la tâche soit réalisée. Et tu la réalises comment tu l'entends, où tu l'entends. C'est ça,
c'est la question de la confiance et de la responsabilité.
La base même d'un management réussi, c'est d'avoir confiance et de donner confiance.
Oui. Mais si le management du manager ne lui donne pas confiance, peut-être que lui recrée. Il y a une sorte de duplication sociale vis-à-vis de cette mécanique-là. Allez savoir.
Honnêtement, tout ce qui s'oriente vers quantifier la mission. Ça ouvre quand même la voie, alors je vais jouer mon gauchiste old school, hein, mais ça ouvre la voie non seulement à le contrat de la durée indéterminée de mission, je suis même pas sûr qu'il ait été voté, mais enfin ça fait partie des trucs qui étaient dans les cartons de La République En Marche dans ces dernières élections, qui est quand même un recul du droit social, et à côté de ça vers la plateformisation, où là très clairement on y a du paiement à la tâche. Je suis pas sûr que ça dessine des perspectives qui soient super enviables pour le monde du travail.
C'est toute l'ambiguïté de la période, en fait. C'est qu'il faut à la fois arriver à trouver cette forme de souplesse que tout le monde réclame d'une certaine façon, y compris les salariés, et ne pas tomber dans une souplesse qui ne profiterait qu'à ceux qui veulent finalement revenir à ces tâcherons du 19e siècle qu'on a déjà évoqués dans ce podcast.
Quand tu as une souplesse et que tu as deux personnes qui tirent, c'est celui qui a le plus de force qui va gagner. A priori, c'est le patronat. Je veux pas jouer mon communiste de base, mais quand même.
Si, quand même, je trouve que tu fais ton communisme.
Ouais, un peu.
Bon,
j'aime bien ton petit côté vintage.
On va laisser cette question en suspens. Vous pouvez commenter, y répondre, y réfléchir. Et puis, peut-être
ce qui pourrait être intéressant, c'est que les gens me disent dans les commentaires ou ailleurs, est-ce qu'ils ont déjà rencontré
alors,
ce
ailleurs,
type
c'est où ailleurs en fait
ailleurs, ils nous envoient un mail, hein, ils nous mettent un message par Messenger, ils nous envoient un pigeon voyageur.
Envoyez-le un pigeon.
On n'a pas d'adresse postale. Vous mettez un timbre, tout ça, vous écrivez avec un. Comment on appelle ça, un stylo plume?
Oui, ça, oui.
Ouais, sur un papier.
Un papier.
Ce qu'on pourrait faire, c'est notre coming out géographique en disant, vous nous envoyez un un pigeon au Hoxton, parce que c'est en fait...
Alors, 32 rue du Sentier, 75 009
Paris. Des semaines, des mois, on enregistre tous ces podcasts, en fait, dans cet endroit assez cool, serein, où on est bien accueilli et où le...
Voilà, vous faites poste restante et nous amène...
Voilà, vous adressez à aux éclaireurs, 39 rue du Sentier, et surtout, vous n'oubliez pas de timbrer, de décrire ça sur un beau papier. Le papier, vous le trouverez dans l'imprimante, en fait. Tout le monde en a, on ne réalise pas...
On ne se rend pas compte, en fait.
Et le stylo plume, vous avez des magasins qui s'appellent les papeteries qui vous en vendront un.
Donc au pire, sinon les gens nous laissent un commentaire ou autre et font en sorte de nous expliquer. Est-ce qu'ils ont déjà rencontré un manager comme ça qui coche la plupart de ces 13 qualités?
Oui, s'il y a nul ça, on pourrait presque faire un concours. Remontez-nous des noms et on va élire le manager de l'année. Un peu comme challenge.
Voilà, on va faire ça. Alors vous nous envoyez des mails, des commentaires et des pigeons, vous faites absolument
ce que
vous voulez.
Ou des cartes postales.
Oui, des cartes postales, ouais, c'est super plaisir.
Oh, ça sera génial ça.
Ah oui, envoyez-nous une carte postale de là où vous êtes en vacances.
Oui, old school.
Merci les gars, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.